Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Présence où j'ai le plaisir de m'entretenir chaque jour avec les musiciens programmés lors du 19e festival de Rocamadour, l'organiste et claveciniste, ou plutôt la claveciniste et organiste et chef d'orchestre Chloé de Guibon est mon invitée du jour. Elle dirige ce mardi soir à 21h l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles à la Basilique Saint-Sauveur dans un programme intitulé « Leçons de ténèbres ». Bonjour Chloé de Guibon et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour les auditeurs de Radio Présence.
Bonjour, merci à vous pour votre invitation.
Si je ne me trompe pas, c'est la première fois que vous allez vous produire au festival. Est-ce qu'il s'agit aussi pour vous d'une découverte du lieu et de la basilique ?
Oui, c'est une première fois et non, je ne suis encore jamais allée à Rocamadour. J'ai vu des images, ça a l'air vraiment magnifique, donc j'ai hâte de découvrir ce lieu.
Puisqu'on parle du lieu, la plupart des musiciens sont sensibles à ce que dégagent les lieux où ils se produisent en concert, à ce qu'ils leur inspirent. Est-ce aussi le cas pour celui ou celle qui dirige un ensemble, comme ça va être le vôtre ?
Oui, bien sûr. L'acoustique nous inspire beaucoup, l'histoire qui accompagne un lieu, sa beauté, tout ça, ce sont des choses bien sûr qui nous nourrissent lors d'une représentation et qui font que chaque concert est unique, chaque lieu apporte une énergie différente.
Vous allez donc diriger l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, mais à la base, vous êtes claveciniste, organiste. En tant que claveciniste, vous avez reçu plusieurs premiers prix de concours réservés à cet instrument et vous êtes encore une très jeune musicienne. Est-ce que la direction d'orchestre est une activité vers laquelle vous allez de plus en plus vous tourner ?
Alors oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que j'ai d'ailleurs étudié lors de mon master à Bâle, parce que j'ai fait un master de basse continue et de direction d'orchestre. Et oui, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup et que je souhaite se développer dans les prochaines années.
Question qu'on peut se poser et que se posent peut-être nos auditeurs, est-ce que vous dirigez toujours de votre clavecin ou éventuellement de l'orgue, ou est-ce que vous dirigez aussi face aux musiciens ?
Oui, je dirige toujours du clavecin parce que je trouve que je peux montrer beaucoup en fait par mon jeu, par la manière dont je forme mes accords, etc. Et pour l'instant aussi, je dirige des œuvres qui ne nécessitent pas de ne pas jouer d'un instrument. Donc oui, pour l'instant, je dirige toujours du clavecin.
Alors, il faut préciser que c'est quelque chose d'assez courant pour ceux qui dirigent de petites formations baroques. Il y a souvent des chefs qui dirigent depuis le clavecin. Hein.
Oui, bien sûr. Voire même de plus grandes formations. L'année dernière, j'ai dirigé par exemple Israël en Égypte de Handel et je l'ai fait depuis le clavecin. Alors bien sûr, là, ça devient un peu compliqué parce qu'on a besoin de plus en plus d'utiliser les mains. Et donc, il faut un moyen pour pouvoir soutenir l'ensemble en jouant tout en pouvant bien montrer avec les mains.
Je l'ai dit, vous êtes une très jeune musicienne et pourtant, vous avez déjà fondé votre propre ensemble. Il s'appelle le Concert de la Reine. C'est un ensemble de musique baroque spécialisé dans la musique vocale avec viol de gambe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors oui, c'est un ensemble que j'ai fondé après mes études à Bâle. Des musiciens avec qui j'ai donné mon récital de master et c'était tellement incroyable de jouer avec eux que ça m'a poussé à continuer et à fonder cet ensemble et surtout pour jouer cette musique que j'aime tellement qui est la musique française du XVIIe siècle. Nous faisons aussi de la musique anglaise du XVIIe siècle et notamment pour se concentrer sur les répertoires pour voix et viol de gambe obligé. Par exemple, les viols chez Charpentier, que tout ce qu'il a composé pour la Mademoiselle de Guise était composé pour voix et de ce viol. On en trouve aussi, par exemple, chez Bouteiller, chez Dumont. Il y a beaucoup de répertoires pour cette formation et c'est un répertoire absolument magnifique.
Très peu joué ?
Très peu joué. Il est quand même joué, mais pas assez.
Pas assez à votre goût, en tout cas.
Exactement.
Quel est l'effectif ?
Il y a encore beaucoup de choses à faire.
Quel est l'effectif de cet ensemble ?
C'est un peu à géométrie variable selon les projets. Ça tourne autour de trois violistes et quelques chanteurs.
C'est-à-dire que vous êtes maximum une dizaine à peu près, pas plus ?
Non, pas plus. La plupart des concerts, oui, on est cinq ou six.
Il y a déjà une résidence pour cet ensemble à Saint-Pierre-de-Montmartre.
Oui.
Pourquoi il y a une raison particulière au fait que vous ayez cette résidence dans ce lieu bien précis ?
Oui. En fait, quand j'ai rencontré Michel Boydec, qui est donc le directeur artistique de la saison à Saint-Pierre-de-Montmartre, nous avons discuté en fait de la musique qui aurait pu être jouée à Saint-Pierre et il se trouve que ça correspond exactement avec le répertoire que nous jouons avec mon ensemble et il m'a proposé de venir en résidence à Saint-Pierre pour en fait redonner vie à ce répertoire qui aurait pu être composé pour les religieuses de l'abbaye puisque c'était en fait une ancienne abbaye royale Saint-Pierre de Montmartre.
Et en tant que claveciniste, pour terminer sur votre carrière personnelle, en tout cas au point où elle en est aujourd'hui, avec quelles formations, quels ensembles êtes-vous amené à vous produire le plus souvent en dehors du Concert de la Reine et de l'Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles?
Alors, je joue régulièrement avec un autre ensemble que j'ai cofondé avec des amis, qui est l'ensemble Mosaïque, donc un ensemble né au Mozarteum de Salzbourg. Et donc, nous jouons principalement de la musique de l'école berlinoise, donc car Philipp Emanuel Bach, Schaffrath, etc., mais aussi des pasticcios d'opéra de Handel ou de Caldara. Voilà, nous avons enregistré un CD l'année dernière autour des œuvres de Caldara avec le baryton basse Alexandre Baldo. Et nous allons d'ailleurs réenregistrer un disque avec lui en octobre. Et nous avons plein d'autres projets autour de ce répertoire à venir.
On parlera de vos projets à la fin de cet entretien, mais on va parler avant, bien sûr, de l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles. Avec vous dans quelques minutes, avant cela, nous allons vous écouter au clavecin. Vous jouez ici la très belle Sarabande et gigue en fa de Louis Couperin. La Sarabande et gigue en fa de Louis Couperin, jouée par Chloé de Guibon, avec qui je vais poursuivre cet entretien, où il va être d'ailleurs question d'un autre Couperin. L'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, voilà un ensemble rattaché à un lieu très prestigieux, qui pourrait faire croire que cette formation existe de longue date. Eh bien, pas du tout. Sa création est très récente, puisqu'elle date de fin 2019. Comment est né cet orchestre, en fait, Chloé?
Alors, je n'étais pas là à la création de cet ensemble, mais il me semble qu'il a été créé à l'occasion d'un opéra ou d'une œuvre contemporaine, Ghost of Versailles. Et ensuite, suite au succès de cette production, ils ont décidé de continuer et à monter des productions régulièrement avec cet ensemble. Notamment pendant la période du Covid, ils ont fait de nombreux enregistrements, je crois. Et en fait, moi, je les ai rejoints il y a 2 ans et demi, voilà. Donc après toute cette période de Covid. Et c'est à ce moment-là aussi que l'orchestre a vraiment commencé à exploser et avoir autour de productions, toutes les productions qu'on connaît aujourd'hui, et puis c'est tourné en Chine, en Corée, en Thaïlande.
Oui, pour que nos auditeurs comprennent bien, vous l'avez rejoint au moment où vraiment le projet s'est développé, donc je crois début 2022, bon, il y a 2 ans et demi, effectivement. D'où sont issus les musiciens qui le constituent? Comme vous, ce sont beaucoup de jeunes musiciens qui sont sortis depuis assez peu des grands conservatoires ou des pôles supérieurs?
Alors, pas du tout. C'est assez mixte. Donc, il y a de jeunes musiciens comme moi, mais il y a aussi des musiciens plus âgés
Plus
qui font
avancé dans la
partie de cette
carrière.
orchestre. Exactement. Donc, c'est assez mixte et on s'entend tous très bien. Il y a vraiment une très bonne ambiance. Oui, c'est assez incroyable comme petite famille.
Ah, vous êtes entré en tant que claveciniste au départ?
Oui, bah, je suis toujours la claveciniste de l'orchestre.
Attitré de l'orchestre. Qui est le directeur musical ou
Alors,
artistique?
le directeur artistique, donc c'est Laurent Brunner et le délégué artistique Jean-Christophe Cassagne, qui donc un peu la direction des œuvres que l'on jouera. Et il y a deux chefs d'orchestre principaux, Gaëtan Jarry et Stéphane Plevniak, qui se répartissent les productions selon leurs affinités. Et il y a des chefs invités, par exemple Andrés Gabeta, Franco Fagioli, Hervé Niquet aussi, Reinhard Goebel, voilà. Donc régulièrement, des chefs sont invités pour diriger l'ensemble.
Oui, parce que désormais, il y a une saison vraiment de concerts à l'Opéra Royal de Versailles, donnée par l'orchestre, avec de très nombreux concerts maintenant chaque année, hein.
Ah oui, c'est très intense comme rythme. Mais l'orchestre ne fait pas que de la musique baroque, ils font aussi de la musique plus classique, voire romantique. Par exemple, ils vont donner Carmen de Bizet l'année prochaine, en 2025.
Donc le répertoire, en fait, est beaucoup plus étendu qu'on pourrait le croire. On pourrait croire que ça se limite au baroque. Non, c'est bien plus important que ça, hein.
Oui, c'est vraiment oui, très étendu.
Je rappelle qu'il existe cette institution qui est le Centre de musique baroque de Versailles, très importante pour tous les baroqueux, mais ce n'est pas forcément pour jouer les œuvres qui sont aujourd'hui archivées au Centre de musique baroque de Versailles que l'orchestre a été créé, hein.
Non, il n'y a pas de relation entre oui, Versailles Spectacle et le CNBV.
Et concernant l'effectif de l'orchestre, aujourd'hui, il y a vraiment un noyau qui s'est constitué et sur lequel bon, s'appuie la plupart des productions que vous faites.
Oui, bien sûr. En fait, ce sont oui toujours les mêmes musiciens qui sont appelés, qui sont présents aux productions. Et donc, bien sûr, parfois il faut un effectif plus important ou des gens ne sont pas disponibles. Et donc, il y a aussi des gens qui viennent plus ponctuellement. Mais il y a un véritable noyau. Oui.
Alors, on va parler maintenant de ce concert à la Basilique Saint-Sauveur ce mardi soir, le 20 août. Donc, avec quelle formation, quel effectif allez-vous vous produire à cette occasion?
Alors, on va se produire avec donc les deux solistes, Florie et Marie-Lise, puis et donc moi à l'orgue. Il y a aussi deux théorbes, deux viols de gambe et un chœur de femmes.
Chœur de femmes
Qui,
de combien de chanteuses?
six chanteuses.
Donc plus les deux solistes, les deux sopranos, Florie Valiquette et Marie-Lise. Et donc vous serez à
Exactement.
l'orgue cette fois-ci, vous allez diriger de l'orgue. Le programme a pour titre Leçon de ténèbres. Quelles œuvres et quels compositeurs va-t-on pouvoir y entendre?
Oui, alors le programme est structuré autour des leçons de François Couperin. Donc c'est trois leçons de ténèbres assez connues du public maintenant. Et Laurent Brunner m'avait demandé d'étoffer ce programme avec donc justement un chœur de femmes. Et donc je me suis penchée sur le répertoire donc des religieuses de ce temps-là. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ces motets de Clérambault, composés en fait pour les 3 jours avant le
Le
carême.
carême.
C'est ça. Et je trouvais ça intéressant. Déjà, c'est des motets magnifiques. Et donc, je trouvais que c'est une bonne occasion pour les jouer. Et surtout que, comme le carême est une préparation du croyant avant la Semaine Sainte et la Passion du Christ, je trouvais que c'était bien aussi d'utiliser ces motets comme une préparation musicale avant tout le drame des leçons de ténèbres.
Alors, je parlais tout à l'heure de d'un autre Couperin, donc François, c'est le neveu de Louis. On vous a entendu jouer une œuvre de Louis Couperin au clavecin. François est le plus connu, en tout cas le plus renommé de cette grande famille de musiciens que sont les Couperins. Et ses leçons de ténèbres, bon, vous l'avez dit, hein, donc vous avez donné ce titre au programme parce que c'est la pièce qui l'a inspiré. Mais il y a autour donc ces motets là, de Louis-Nicolas Clérambault. Peut-être expliquer à nos auditeurs qui était Louis-Nicolas Clérambault, parce qu'il est moins connu que Couperin et moins connu que Charpentier, dont nous allons parler là dans quelques instants. Est-ce qu'il était en revanche très renommé à l'époque? À l'époque,
Ah
donc on est sous Louis XIV, hein.
oui, donc Louis-Nicolas Clérambault était issu d'une famille de musiciens, mais c'est le plus connu de cette famille. Et à l'époque, oui, il était organiste, alors je me souviens plus exactement, je crois qu'il était organiste à Saint-Séverin, puis il a pris la suite de Nevers à la maison royale de Saint-Cyr. Il a beaucoup composé pour ces demoiselles religieuses. Il a eu d'autres tribunes d'église, mais je me souviens plus de quelles églises. Mais c'est, oui, un musicien très renommé qui a publié de nombreuses œuvres. des suites pour clavecin, en oratorio, la femme à Jupiter, de nombreux motets, de nombreuses œuvres religieuses. Donc oui, c'était une grande personnalité de l'époque.
Oui, alors je sais qu'il était très apprécié de Louis XIV, mais en fait, sa carrière est à cheval sur les règnes de Louis XIV et de Louis XV, puisqu'il est mort en 1749. Est-ce que sa musique est vraiment typique du baroque français de l'époque?
Ah oui. De par son travail à la Maison Royale de Saint-Cyr, il s'est beaucoup inspiré de la musique de Nivert, qu'on voit dans ses recueils, qui comportent à la fois des motets de Nivert et de Clérambeau, qui a d'ailleurs beaucoup de citations de Clérambeau, de ses motets de Nivert. Et donc, oui, stylistiquement, c'est assez conservateur.
Et donc le troisième larron, j'allais dire, plutôt le troisième compositeur au programme de ce concert, c'est Marc-Antoine Charpentier. Quelles œuvres de lui allez-vous jouer?
Alors, nous allons jouer le Stabat pour des religieuses et deux réponses. Ces réponses, en fait, ont été composées par Charpentier pour les Leçons de Ténèbres. Dans la liturgie, ils alternent avec les Leçons de Ténèbres. Donc, on a une leçon, un répond, une autre leçon, un autre répond. Et donc, comme François Couperin n'a pas composé de répond pour les Ténèbres, j'ai donc choisi d'utiliser ceux de Charpentier. Ils sont d'ailleurs absolument magnifiques. Je tenais beaucoup à ce qu'ils soient dans ce programme. Et ils offrent d'ailleurs une parenthèse bienvenue entre tout le drame des leçons et une belle respiration qui nous permet ensuite de nous replonger dans ces leçons.
Est-ce qu'il s'agit d'œuvres que vous donnez régulièrement en concert avec l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles?
Les leçons de ténèbres de Couperin, oui, tous les ans à la Semaine Sainte, elles sont données. Mais c'est Répons de Charpentier, c'est Motets de Clérambeau, non, c'est nouveau. Mais moi, personnellement, les Répons de Charpentier, j'aime bien les mettre dès que je peux dans mes programmes parce que c'est vraiment des petits bijoux.
On a compris que c'est vraiment votre programme et que vous vous êtes fait plaisir, hein?
Oui.
Mais tout en lui donnant quand
J'ai
même
mis ma patte.
une vraie cohérence, quoi. Il y a une vraie cohérence. C'est pas pour rien que ce sont ces trois compositeurs
Ah
qui
non,
sont au
oui, bien
programme
sûr.
et avec ces œuvres bien précises.
Oui, bien sûr, oui, il y a tout un cheminement entre donc ces motets pour le carême, des leçons de ténèbres et les réponses, et cette dernière pièce le Stabat de Charpentier, qui est une pièce très longue en fait. Et c'est une même mélodie qui se répète avec un texte différent. Et donc cette répétition crée quelque chose de très envoûtant, méditatif, presque hypnotisant. Je trouvais ça très beau de terminer le programme sur cette pièce.
Nous allons pouvoir écouter un extrait des Leçons de Ténèbres de François Couperin, c'est la deuxième, et l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles accompagne ici la soprano Flory Valiquette sous la direction de Stéphane Fuget.
Thank you.
La magnifique deuxième leçon de ténèbres de François Couperin, chantée par la soprano québécoise Florie Valiquette, accompagnée par l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, placée sous la direction de Stéphane Fuget. C'est donc l'une des œuvres au programme du concert que vous allez diriger ce mardi soir à la Basilique Saint-Sauveur, Chloé de Guibon. Pour terminer, peut-être un mot sur vos projets personnels à venir. Est-ce qu'il est prévu des événements particuliers, l'enregistrement d'un CD ou d'autres choses ?
Je dirigerai Actéon avec les académiciens de l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles à la Galerie des Glaces sur un projet qui me réjouit beaucoup. Ensuite, je commence une série sur les classements historiques en état de jeu. Donc, je vais me balader en Europe pour enregistrer des épisodes sur ces classements grâce au soutien de Phil Baroque Productions. Et par ailleurs, oui, j'ai un projet d'enregistrement d'un disque de classement sur le Rucker de Colmar du musée Unterlinden.
Et ce sera quelles œuvres qui seront au programme de ce futur CD ?
Alors de la musique française, bien évidemment, du d'Anglebert, un compositeur que j'affectionne beaucoup.
Eh bien, nous allons terminer sur ces beaux projets à venir. Merci infiniment, Chloé de Guibon, de vous être prêtée au jeu de l'interview. Je rappelle que vous dirigez l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles ce mardi 20 août à 21h à la Basilique Saint-Sauveur. Vous allez accompagner les sopranos Florie Valiquette et Marie-Lys dans un programme intitulé « Leçons de ténèbres ». Il doit rester encore quelques places, mais il faut vite se dépêcher si vous voulez assister à cette belle soirée. La billetterie est en ligne à l'adresse www.rocamadourfestival.com. Merci à nos auditeurs de leur fidélité à ce rendez-vous quotidien avec les musiciens programmés lors de la 19e édition du festival. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle interview. Excellent après-midi à tous sur Radio Présence.